Vous pouvez reprendre avec moi Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité ou la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit est la manifestation extérieure d'une vie intérieure. Le fruit, c'est l'expression visible d'une vie invisible, qui est secrète, qui est là, qui est cachée au plus profond de mon être intérieur. Quand le fruit sort du sarment, c'est la preuve que le sarment est bien greffé sur le cep, et c'est la preuve que la sève, la vie, le Saint-Esprit, la sève coule, la sève monte du tronc, la sève, le Saint-Esprit vient de Jésus, elle passe en moi, elle passe par le sarment que je suis, et j'insiste, miracle, il y a un fruit beau, abondant, juteux, délicieux, un fruit désirable, un fruit abondant et bénéfique qui sort miraculeusement de moi. Le fruit, c'est la preuve qu'il y a une vie puissante à l'intérieur de moi. À ceci, dit Jésus, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce fruit qui sort de chacun d'entre nous rend la présence de Dieu évidente. Porter du fruit, c'est bon pour moi, c'est bon pour Dieu et c'est bon pour les autres. Porter du fruit, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi puisque la sève coule en moi. Et comme la vie de l'Esprit, cette sève du Saint-Esprit coule en moi, ça va contribuer à mon bien-être, à ma force. Je vais être beaucoup plus vigoureux, je vais être beaucoup plus épanoui. Les gens qui sont amour sont les gens les plus joyeux, les plus paisibles, les plus épanouis qui soient. Les gens qui manquent d'amour sont des gens chétifs et sclérosés. L'amour me donne une qualité de vie intérieure. Le fruit est bon pour mon épanouissement. Et plus tu vas laisser la sève de l'esprit couler en toi, plus tu vas être épanoui, tu vas te sentir vigoureux, fort et en bonne santé spirituelle. C'est bon pour moi, c'est bon pour Dieu, parce que Jésus dit, lorsque vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est bon pour les autres, parce que les autres, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils aiment ma présence, quand ils sentent cet amour inconditionnel qui sort de moi, quand ils sentent ma joie, ma paix, ma fidélité, ma patience. Je ne sais pas vous, mais vivre à côté de quelqu'un qui n'est pas joyeux, qui n'est pas paisible, qui n'est pas tempérant, qui n'est pas maître de lui-même, qui n'est pas patient et qui n'est pas fidèle et pas bienveillant. Bonjour le couple, hein. Bonjour l'Église. Mais quand les autres goûtent ce fruit qui sort de moi, ah c'est bon, ils sont nourris, ils sont rassasiés. C'est tellement bon de vivre auprès de quelqu'un qui manifeste un fruit authentique et abondant. On a vu bien évidemment que ce mot « amour », parce que nous nous faisons bien souvent des illusions sur nous-mêmes, que ce mot « amour », il faut absolument le définir, voire même le redéfinir. Il y a une énorme différence entre l'amour divin et l'amour humain. L'amour de Dieu, je rappelle simplement, je ne redis pas tout ce qu'on a dit sur l'amour humain la semaine dernière, l'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu, c'est une nature. C'est ce que Dieu est par nature. Il est amour. Il n'éprouve pas de l'amour. Il ne ressent pas de l'amour. Il ne manifeste pas de l'amour. Il est amour. C'est son essence même. C'est sa nature. C'est ce qu'il est. Par conséquent, son amour infiniment au-dessus du nôtre, son amour est éternel et non pas passager. Son amour est inconditionnel. Son amour est invariable. Son amour est illimité. Son amour est passionnel, sacrificiel. C'est un amour non pas qui donne. Il y a de l'amour qui donne dans le monde. C'est un amour, l'amour de Dieu, c'est un amour qui se donne. C'est un amour don de soi, un amour sacrificiel, un amour passionnel, un amour qui est puissant. L'amour de Dieu n'est pas un amour faible. Ce n'est pas un vieux papa gâteau dans le ciel qui m'aime. Ce n'est pas un vieux pépé à qui je peux faire ce que je veux, qui va tout gober sous prétexte qu'il m'aime. Non, ça c'est humain. L'amour de Dieu est saint, il est juste, il est équilibré. Oui, il a un amour passionnel pour le pécheur que tu es, mais il a une haine viscérale pour le péché que tu entretiens et que tu cultives en secret. Le parfait équilibre de l'amour de Dieu. Un amour qui n'est pas permissif, un amour qui n'est pas faible, un amour qui n'est pas laxiste. Le Seigneur, dans son amour, ne m'évitera pas les conséquences de mes inconséquences. Il m'aime, mais il faut que je comprenne qu'il y a des conséquences à mes choix. L'amour de Dieu n'est ni laxiste, ni faible, ni permissif. Et quand on regarde les dimensions de l'amour de Dieu, le parfait équilibre et la puissance qui se dégage de son amour, eh ben, il n'y a pas de mystère, frères et sœurs. Aimer comme ça, c'est mission impossible. Je suis perdu, pardon, je suis largué, je suis dépassé, je peux essayer de faire tous les efforts possibles et imaginables, je ne me hisserai jamais par moi-même à un tel degré, à un tel niveau d'amour. Il me faut nécessairement être rempli du Saint-Esprit. Le secret, on l'avait vu ensemble, c'est la communion du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit en Romains 5, l'amour de Dieu est répandu, il est déversé en abondance dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. C'est son fruit, c'est son œuvre, c'est son exclusivité, ça lui appartient à lui et à lui seul, et ce genre de dimension de vie ne s'acquiert ni par méthode, ni par technique, ni par stratégie, ni par mes efforts vains et charnels, il ne s'acquiert que d'une seule façon, il y a un secret, c'est la sève, c'est le Saint-Esprit qui coule en moi et qui produit ce genre de fruit. C'est son fruit à lui. Le fruit de l'esprit, rien d'humain. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, puisqu'il faut le définir, selon ce que dit 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour dont Dieu m'aime est un amour patient. L'amour dont il veut que nous nous aimions les uns les autres est un amour patient. Quand tu grognes intérieurement vis-à-vis de ton frère, n'oublie pas à quel point Dieu a été patient avec toi et réfléchis à deux fois avant d'ouvrir ta bouche, pardon. Parce que la Bible dit qu'un jour on finira par être mesuré avec la mesure dont on s'est servi pour les autres. Et si ta mesure est courte, il y a des mesures qui vont se raccourcir dans ta vie. Jusqu'à ce jour où tu finiras par être livré au bourreau spirituel. Pourquoi est-ce que l'amour est patient ? La patience n'est pas passive. La patience n'est pas contrainte. Elle n'est pas résignée. Elle n'est pas forcée. Elle n'est pas obligée. Je veux être patient de cœur. La patience est active. L'amour de Dieu est patient. Cet amour, cette patience est active. La patience est aussi, on l'a vu, pleine de bonté. Parce que la patience a un but. Elle a un objectif. La patience n'est pas résignée. Elle n'est pas fataliste. Elle n'est pas contrainte. La patience a une vision. Elle a un but. Elle a un objectif. Elle croit que dans la vie de celui alors qu'humainement parlant, il n'y a peut-être plus rien à attendre, elle croit que dans la vie de cette personne, l'œuvre de Dieu n'est pas encore finie. Je suis patient parce que je suis convaincu que le meilleur est encore possible. Tant que Dieu n'a pas fermé la porte de la grâce, le meilleur est encore possible pour mon frère, pour ma sœur, pour mes parents, pour mes enfants, pour ceux qui m'entourent. Et pour moi aussi. Ouf. Patient, plein de bonté, je suis actif dans cette patience parce que la patience veut favoriser le meilleur. Elle veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser le salut, la restauration, le retour, la réconciliation, des relations brisées qui seraient rétablies, restaurées. L'amour est patient et il va exprimer toutes sortes de manifestations de bonté pour favoriser le meilleur qui est à venir. Eh bien, quand je patiente avec un bon objectif comme ça, ce n'est pas dur. Je sais pourquoi le Seigneur me demande d'être patient. Je sais pourquoi je patiente. La patience, je vous l'ai dit, je vous demande vraiment de graver ça dans vos esprits, imaginez ça. La patience, c'est une porte ouverte. La patience, c'est une porte ouverte vers le salut. C'est une porte ouverte pour le retour. C'est une porte ouverte pour la restauration. La patience, c'est une porte ouverte vers le miracle. Si je ferme la porte de la patience trop tôt, il y a des miracles qui n'auront pas lieu dans la vie de mes enfants. Si je ferme la porte de la patience trop tôt, il y a des miracles et des œuvres qui vont s'interrompre dans la vie de frères et de sœurs dans l'Église. Je laisse la porte de la patience ouverte parce que c'est réellement une porte ouverte vers le meilleur, vers le miracle. Et je sais que le meilleur, par la grâce de Dieu, est à venir. Un seul, frères et sœurs. Je sais qu'on a la mèche très courte, je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je réinsiste ce matin. Je sais que c'est humain, je suis pareil, on a la mèche très très courte. Un seul a le droit de fermer la porte de la patience, c'est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se disent, je vais être patient combien de temps? Ça va durer combien de temps? La patience, elle va jusqu'où? Elle va jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la personne soit rentrée dans le meilleur pour elle, ou jusqu'à ce que Dieu, dans sa souveraineté, sa sagesse, mais ça lui appartient à lui seul, finisse par dire, un jour, ça arrivera, c'est biblique, la porte de la grâce sera fermée. Un seul a le droit de fermer la porte de la patience, c'est Dieu. Ça fait quand même bien longtemps qu'elle est ouverte, hein ? Amen. Et si la porte de la patience n'avait pas été ouverte, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors je crois que ce sont des choses qu'il faut vraiment considérer avec le plus grand sérieux. Personnellement, ça me fait vraiment réfléchir, ça aiguille, ça oriente réellement mes méditations actuellement. L'amour est patient et plein de bonté. Mais si vous voulez faire une super prière, demandez à Dieu, « Seigneur, fais couler en moi ton esprit. » Seigneur, déverse en moi ton esprit. Fais couler en moi ta sève, afin que je sois patient. Que je sois aimant de cet amour divin, que je sois aimant et patient. Parce qu'être patient, c'est salutaire en tout, c'est salutaire partout et c'est salutaire pour tout et pour tous. Amen. On continue ensemble dans 1 Corinthiens 13. Et le verset qui m'a interpellé pour ce matin, c'est le verset 7. Un petit verset, mais avec une très grande profondeur, et quatre verbes qu'il va falloir aussi considérer ou reconsidérer ensemble. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Moi, je vais le lire dans la version Summer. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Vous avez probablement dans vos Bibles Louis II ou Nouvelle Édition de Genève, qui sont souvent les éditions les plus courantes, les transcriptions les plus courantes. Vous avez probablement « Il excuse tout ». Vous avez ça ? Ça, il faut en parler hein, quand même. Il faut définir ça. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Le premier terme que l'apôtre Paul emploie ici, ce n'est pas littéralement le verbe « s'excuser ». L'amour excuse tout, pas au sens où on est d'accord avec tout et tout le monde. Attention, il excuse tout, il croit tout, il espère tout. L'amour n'est pas naïf non plus. L'amour n'est pas stupide. L'amour de Dieu est saint, il est juste, il est équilibré. Vous connaissez ce proverbe qui est purement humain, l'amour est aveugle. C'est faux. L'amour humain est aveugle parce que c'est un sentiment. L'amour de Dieu n'est absolument pas aveugle. L'amour excuse tout, pas au sens où je suis d'accord avec tout, pas au sens où je vais devenir laxiste avec le péché. Il y a un équilibre dans l'amour de Dieu. Malheureusement, des chrétiens et même des pasteurs, parfois pour avoir été vraiment prompts pour régler des questions de péché. Pardonnez-moi, hein, ils ont liquidé le pécheur avec le péché, il n'y avait plus rien à sauver. Ça a été trop loin, trop vite, trop dur, trop cassant. Et puis d'autres, malheureusement, d'autres chrétiens, d'autres pasteurs, ils excusent tout. C'est-à-dire qu'on a tellement peur de regarder le pécheur dans les yeux et de lui dire avec amour, si tu ne te repens pas, il ne se passera rien du tout. On a fini par excuser le péché. L'amour excuse tout. Pas au sens où je suis d'accord avec tout, pas au sens où je suis laxiste avec le péché, pas au sens où je vais dire « Oh, mais c'est pas si grave, ah ben mon pauvre petit, il y avait quand même des circonstances atténuantes, c'est quand même pas de sa faute, oh ben non, mais ce qu'il a fait, c'était peut-être pas si grave, oh puis d'autres le font. » Ça, ça s'appelle le déni du mal, le déni du péché. C'est très problématique. Si je nie la question du péché, de la gravité du péché, j'ai pas besoin de l'amour de Dieu, hein. J'ai pas besoin de Jésus, j'ai pas besoin de la croix, j'ai pas besoin de salut, j'ai pas besoin de la grâce. Si on nie la problématique du péché, on va même finir par nier la nécessité de Dieu. Alors, évidemment, vous avez compris, l'amour de Dieu n'est pas naïf, il n'est pas aveugle. L'amour voit le péché, l'amour voit l'injustice, l'amour voit la souffrance qui m'est causée, qui m'est occasionnée. L'amour ne ferme pas les yeux sur le péché, mais il a cette capacité de pardonner l'offense, de pardonner la faute. Il a la capacité de pardonner le mal que l'on m'a fait, même le pire mal que l'on m'a fait. Là, il y a une capacité, il y a une dimension dans l'amour de Dieu. Le verbe que Paul emploie ici, en grec, c'est très intéressant, c'est le verbe stego. C'est un verbe qui signifie littéralement couvrir. Il couvre. C'est le mot qu'on emploie pour des travaux. Quand on couvre une maison, par exemple, c'est exactement le mot qu'on emploie pour une maison. On couvre une maison, on couvre une maison pour la protéger des intempéries qui s'abattent sur elle. L'idée, c'est la protection, protéger quelque chose ou quelqu'un en le recouvrant. Le but, c'est de préserver. Le pécheur, il a besoin de se repentir et de trouver la grâce de Dieu. Mais c'est de couvrir et de protéger le pécheur par le silence. Je m'explique. Encore une fois, le but ici, pour Paul, ce n'est pas de cacher ou de dissimuler de péché. Le péché doit être mis en lumière. Mais il est question de préserver et de protéger le pécheur. Le meilleur exemple se trouve dans la parabole du fils prodigue. Mais qu'est-ce que j'aime pas ce titre ? Ça, c'est les commentateurs bibliques. C'est la parabole du cœur du père. Voilà. Le héros, ce n'est pas le fils prodigue. Le héros, c'est le père. La parabole du cœur du père. Lorsque le fils est rentré en lui-même, il a eu sa prise de conscience de son péché. Une fois qu'il a pris conscience de son péché, de son état et de sa misère, il a fait une démarche, il s'est levé après avoir pris sa décision, il a été vers son père. Mais lorsque le fils est arrivé, il nous est dit que le père s'est mis à courir, souvenez-vous. Il s'est mis à courir. Et ce qui l'a amené à courir et à prendre le fils dans ses bras, ce n'était pas seulement l'empressement de le retrouver, c'était aussi le désir de le protéger. Parce qu'en faisant ça, le père a pris le fils dans ses bras, il l'a couvert, il l'a protégé. Il l'a protégé de quoi ? Il l'a couvert, il l'a protégé de la vindicte populaire. Il l'a protégé des colibets, il l'a protégé des ragots, il l'a protégé des jugements, il l'a protégé des lapidations verbales, il l'a protégé de la critique, il l'a protégé de la médisance. Il a évité que les choses ne deviennent pires ou que les gens fassent à son fils plus de mal qu'il ne s'en était déjà fait lui-même. Ce qui doit être réglé, on est bien d'accord. Mais, merci Seigneur, il y a cette attitude dans le cœur du Père qui va couvrir, qui va protéger, c'est couvrir par le silence. Sophonie chapitre 3, verset 17, c'est un texte qu'on doit tous connaître par cœur, avant d'ouvrir la bouche sur quelqu'un. Il garde le silence sur mes fautes. L'Éternel, ton Dieu, Sophonie, chapitre 3, verset 17, pour ceux qui notent, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour. Il va garder le silence sur quoi ? Sur mes fautes, sur mes péchés. Nous, on pardonne. Mais, on n'oublie pas, ce n'est pas du pardon. On pardonne, mais on en parle encore. On rappelle aux autres leurs fautes. Ça, c'est tellement humain et tellement pratique dans une certaine mesure. Je te pardonne, mais le jour où tu vas faire ça, où tu ne seras pas comme ça, où il n'y aura pas si, il y en a, ça les fait bien rigoler, ils l'ont vécu, hein, où tu vas être comme si ou comme ça, je te rappelle quand même que, oui c'est pardonné, je te rappelle quand même que le jour où tu as fait ça, où tu as géré ça comme ça, c'était, alors si c'était pour faire ça, ben, c'était pas la peine, tu ne vas pas me gérer ça comme ça, si c'était pour faire comme la dernière fois, c'était pas la même, merde, paf! L'amour protège le pécheur par son silence. Et une fois que c'est pardonné, une fois que les choses sont réglées, le Père a pris le Fils dans ses bras et il l'a protégé des insultes, des quolibets, de la honte, de l'opprobre, afin qu'il ne soit pas exposé aux intempéries des habitants, afin que l'autre ne soit pas exposé aux intempéries de la critique. Donc, il l'a protégé, il l'a couvert. Et c'est exactement ce que la grâce de Dieu fait pour nos cœurs, pour nos vies. C'est vraiment l'idée de protéger, de couvrir, afin qu'il n'y ait pas plus de dégâts que ce qu'il y en a déjà eu par le péché. Je vous donne un exemple. Mon beau-père avait eu une vie dans sa jeunesse, très difficile, très compliquée. Il était né dans un foyer brisé et déchiré. Et j'entendais régulièrement mon beau-père, lorsqu'il donnait son témoignage, parler de cette enfance déchirée, brisée. Et il en parlait même un peu beaucoup. Et puis un jour, j'ai été surpris. J'ai vu que dans son témoignage, il avait été tellement sobre. J'ai senti qu'il avait dit le minimum du minimum sur le foyer dans lequel il avait été élevé. Et après la réunion, mon beau-père il m'a dit, « Tu vois Stéphane, j'ai compris quelque chose. Chaque fois que je donnais mon témoignage et que je commençais à me répandre sur les misères et les horreurs que mon père me faisait subir, je me suis rendu compte que ça attirait la sympathie des gens sur ma vie. » J'ai pas besoin de ça, Jésus a tout réglé. Et je me suis rendu aussi compte que ça salissait mon père encore plus, que ça jetait un discrédit, une opprobre, une honte sur lui, et que par la façon dont j'allais donner mon témoignage, j'allais jeter une opprobre sur lui et j'allais limiter l'action de Dieu dans sa vie au lieu de favoriser cette action. Et il m'a dit, puisque Dieu m'a pardonné et qu'il me couvre par son silence, j'ai pardonné à mon père, alors je le couvrirai par mon silence. Et ce jour-là, j'ai compris, quand il me l'a expliqué comme ça, j'ai compris ce que ça signifiait, l'amour excuse tout, l'amour couvre tout. Dieu n'a jamais fermé les yeux sur mon péché. Il a fallu que je me repente, il m'a pardonné, il m'a restauré. Mais la dimension et la profondeur de sa grâce font qu'il m'a couvert, il m'a protégé par son silence. Et Dieu veut que j'aime comme ça. Si vous vous sentez largué, c'est normal, moi aussi. L'amour ne colporte pas. L'amour n'étale pas sur la place publique. Aux fins de détruire, aux fins de ruiner, aux fins de discréditer, aux fins de faire du mal, aux fins de se servir des dossiers qu'on a les uns contre les autres. L'amour n'est pas médisant. L'amour n'expose pas les fautes et les manquements des autres. L'amour couvre, il protège par son silence. L'amour règle ce qu'il y a à régler et après il couvre, il se tait. Amen. La deuxième chose que l'apôtre Paul dit, c'est que l'amour croit tout. Encore une fois, je ne suis pas naïf, je ne suis pas stupide, je ne vais pas tout gober bêtement, je ne suis pas crédule et je ne suis pas prêt à avaler n'importe quelle couleuvre ou n'importe quel mensonge. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus qui dit « Soyez simples comme des colombes, mais soyez prudents comme des serpents. » Donc non, les chrétiens, on n'est pas neuneux. Qu'est-ce que ça veut dire ici, l'amour croit tout ? Dans la pensée de Paul ici, c'est que l'amour croit à une meilleure issue pour celui qui a mal agi. L'amour croit à une meilleure issue pour celui qui a mal agi. L'amour croit que le coupable peut parvenir à la repentance. L'amour croit que le retour de cœur est possible. L'amour croit que la restauration est encore tout à fait possible. L'amour croit que Dieu, dans sa grâce, peut triompher, que ce qui a été détruit peut être reconstruit, que des relations brisées peuvent être rétablies, restaurées, etc., etc. L'amour ne gobe pas tout. L'amour croit à une meilleure issue. L'amour refuse d'en rester à la blessure. L'amour refuse d'en rester là. L'amour s'attend toujours à voir le meilleur. L'amour croit tout au sens de l'issue. C'est comme avec la patience, au sens de l'issue. L'amour croit qu'il y a une meilleure issue. C'est pour ça que l'amour ne juge pas. C'est pour ça que l'amour ne condamne pas. C'est pour ça que l'amour ne rejette pas. C'est pour ça que l'amour ne colporte pas. C'est pour ça qu'il est patient. C'est pour ça qu'il couvre, parce qu'il va manifester aussi toutes sortes de bontés et il va protéger, couvrir pour ne pas aggraver les choses. Quand quelqu'un est dans une situation de péché, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu as subi une injustice, la situation est suffisamment grave, sérieuse et délicate pour que tu n'aggraves pas les choses. C'est tout à fait logique. Donc Dieu dit, mon amour est patient, mon amour protège, mon amour couvre, mon amour n'est pas médisant, mon amour ne colporte pas, mon amour croit tout, mon amour ne croit pas les mensonges que ton mari te raconte. Bien sûr que non. L'amour ne croit pas les mensonges que tes enfants te racontent quand tu les regardes dans les yeux, quand tu leur dis « je te connais comme si je t'avais fait ». C'est vrai, ça tombe bien, vous les avez fait, c'est vrai. Vous ne pouvez pas gober leurs mensonges. Mais ils croient tout au sens de l'issue. Ils croient qu'il y a une meilleure issue qui est possible. Et c'est pour ça que l'amour va agir de cette façon-là. L'amour est déjà dans la vision de la restauration. L'amour est déjà dans une perspective d'avenir. Et c'est dans ce sens que Paul dit « l'amour croit tout ». Deux autres petits points rapides. L'amour espère tout. Le mot qui a été employé ici pour traduire « espérer » désigne littéralement une attente. Une attente joyeuse, c'est attendre le salut avec joie. L'amour espère tout, c'est une attente joyeuse et confiante. Comme pour la patience, quand j'attends une meilleure issue pour celui qui s'est éloigné, quand j'attends une meilleure issue pour celui qui s'est éloigné, mon espérance, mon attente n'est pas passive. Mon attente n'est pas résignée, mon attente n'est pas contrainte, mais elle est active, elle est libre, elle est volontaire, et elle va tout mettre en œuvre pour favoriser le salut, la restauration, le retour. Il espère, il attend, il sait que rien n'est définitivement clos, rien n'est définitivement mort, rien n'est définitivement terminé. Dieu ne tire pas un trait sur les gens aussi facilement que nous. Dieu n'oublie pas les gens aussi facilement que nous. Et on peut très vite, inconsciemment, on peut très vite cesser d'attendre. L'amour, il attend le salut avec joie. Et ils refusent ce statu quo. Ils refusent que ce soit fini. Ils refusent que ce soit terminé. Ils refusent de s'en tenir à l'offense. Ils refusent de s'en tenir à la chute, à la déception, à la douleur, à la blessure. L'amour refuse d'en rester là. L'amour attend joyeusement la meilleure issue dont nous avons parlé. Dernier point. L'amour supporte tout. Lorsque l'apôtre Paul dit « l'amour supporte tout », ce qui est intéressant dans l'original, c'est que Paul ici a employé un terme militaire. C'est un terme qui est employé dans le langage des armées. Et ce terme littéralement signifie « comme deux soldats, rester auprès d'eux ». Littéralement, rester auprès d'eux. S'attarder, littéralement, s'attarder derrière. Je reste auprès de la personne. Je m'attarde auprès de la personne. Alors que tout voudrait me pousser à lui mettre le compte, à la critiquer, à l'abandonner, à la délaisser. L'amour supporte, c'est-à-dire l'amour reste auprès d'eux. L'amour s'attarde. Ça rejoint la réalité de la patience. C'est tenir la position coûte que coûte. La position de quoi ? Ben la position d'amour. Je suis dans une position spirituelle. J'ai choisi d'aimer. Mais au fur et à mesure que vous voyez les points, vous vous dites « mais c'est carrément inconcevable ». Ben oui, parce que si Dieu était concevable, il ne serait pas Dieu. Bien sûr que ça me dépasse. Rester auprès de celui qui s'attardait auprès de... Tenir la position coûte que coûte, peu importe le prix, parce que c'est ça l'idée, c'est tenir une position, peu importe ce que je vais me prendre, peu importe ce que ça va me coûter à moi. Tenir une position à n'importe quel prix. Vous, moi, devant des situations, on a des situations avec des conjoints, on a des situations avec des enfants. On a envie de fuir. Mille fois, on a eu envie de se tirer. Mille fois, on a eu envie d'abandonner. Mille fois, on a envie de le délaisser, de le laisser à son propre sort. C'est humain. Mais l'amour de Dieu tient la position. Et par moi-même, je ne peux pas. Rester auprès d'eux, s'attarder derrière, tenir la position, me parle de persévérance, me parle de constance, de durée, de longévité, de fidélité, de patience, d'endurance. Endurance devant l'opposition, endurance devant le mépris, endurance devant l'indifférence. Endurance devant le rejet, devant la méchanceté, devant les offenses. C'est pour ça qu'une autre version de Bible a traduit aussi « L'amour endure tout ». Par moi-même, je ne peux pas. C'est pour ça que je vous ai parlé de contempler, savoir contempler Dieu, savoir contempler Dieu dans la prière. Savoir contempler Jésus-Christ dans la prière, dans sa parole. Reprenez les évangiles. Arrêtez-vous. Contemplez Jésus. Contemplez-le dans sa façon de parler. Contemplez-le dans sa façon d'être. Contemplez-le dans son amour qui endure tout. Quand jusqu'à la dernière minute, il supporte l'insupportable pour moi. Si j'ai eu cette révélation dans mon cœur, je ne peux pas parler mal de vous. J'ai vu mon Jésus en croix supporter l'insupportable. Je le vois encore être tenté de descendre de la croix, de mettre un terme à la porte de la patience, de fermer cette porte. Je le vois dans cette occasion encore ultime que le diable met devant lui lorsqu'il manipule la foule, il manipule les chefs religieux, il manipule un brigand sur la croix, un des deux brigands. Alors que Jésus est là, crucifié, qu'il est entre ciel et terre, on le tente encore, il est déjà dans une agonie, dans une souffrance extrême, physique, morale, spirituelle. Et on lui dit encore, mais qu'est-ce que tu fais encore là ? Descends de la croix, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Et je vois Jésus dans un amour passionnel, sacrificiel, rester sur la croix et se taire, et dire « Seigneur, pardonne-leur, pardonne à Stéphane, pardonne-lui ses péchés, il ne sait pas ce qu'il fait. Comment tu peux parler mal de ton frère dans l'église ? Mais Dieu souffre quand vous parlez mal d'un frère. Dieu souffre quand vous n'aimez pas votre sœur. Dieu souffre quand vous lui mettez le compte. Dieu souffre, ça me fait mal. Je ne peux pas être le même. Je ne peux pas être le même. Je ne peux plus être le même. Il faut que je change. » L'amour supporte, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour couvre par son silence, l'amour croit en une meilleure issue, l'amour attend la restauration, il attend le changement de l'autre avec joie, il se réjouit du meilleur qui est à venir. Et l'amour supporte, il endure ce qui est insupportable. Aimer comme ça, c'est pas possible. C'est pas à ma portée. L'amour de Dieu va tellement au-delà de tout ce que je peux concevoir, de tout ce que je peux imaginer. Je suis totalement dépassé par ces réalités. Les dimensions sont vertigineuses. Quand je vois ça, j'ai envie de fuir. Je me dis, Seigneur, ce n'est pas pour moi, donne-le à un autre. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas essayer, frères et sœurs. Je ne peux pas faire un travail sur moi-même. Je ne peux pas me changer moi-même. Je réalise combien la nature de Dieu est réellement inaccessible. Le secret, c'est que le sarment soit toujours parfaitement greffé au cep. Le secret, c'est la communion du Saint-Esprit. L'amour de Dieu est déversé en abondance dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Ce fruit ne s'acquiert ni par technique, ni par méthode, ni par des efforts personnels, vains ou charnels. Ce fruit, c'est le fruit de l'Esprit. Il lui appartient. À lui seul, c'est son exclusivité. Et c'est lui qui veut le déverser, le répandre dans mon cœur. J'ai besoin de vivre dans ces dimensions d'amour. On se recueille, s'il vous plaît.